Des oreilles avec des trous
dedans.
Une émission présentée par André Gaillochet.
Pardon.
André Brémo.
Pardon.
Et André de la Sayette.
On s'y perd dans tout ça.
Mais André Gaillochet dans tout ça.
C'est ça, il est là, André Gaillochet.
Et qui ce n'est qui ne réalise l'émission?
Eh bien, c'est André Estival.
Et ben voilà, des fusiques molles pour fouler tout. Alors, il y a une thématique aujourd'hui pour cette numéro 10?
Eh non.
C'est open.
C'est open.
Voilà. Donc, on va commencer avec un morceau d'un musicien. Un musicien américain roux.
Ah, ça me dit quelque chose.
Ça discute sec dans le studio là, chacun enlève sa petite oreillette là et puis
ouais, en fait je connais ce groupe, je crois que j'ai un autre disque d'eux.
Ouais,
donc je sais qui c'est Jim Black.
Voilà,
c'est Last No Axis.
Exactement,
donc c'est une groupe de Jim Black avec Chris Speed au saxophone.
Voilà, et Dédé Brémo disait mais c'est qui ce sax
Ben oui, c'est un type dont qu'en fait que je connais pas bien, alors que je devrais, parce que enfin je devrais quoi.
Ben alors c'est marrant, moi je les ai vus. En fait, j'aime beaucoup ce disque. Je les ai vus en concert et c'était assez chiant quand même. Mais chiant, mais en même temps très intéressant par les climats qu'ils développent.
Bah là, ce qu'on a écouté, c'était tout simplement super beau.
C'est
moi,
très beau, ouais, c'est très beau. Ouais. Ouais. Et alors lui, Jim Black, il a quand même un jeu très étonnant, quoi, très étonnant, parce que il joue très en force et en même temps, il a un son qui est pas spécialement, enfin en tout cas en concert, pas spécialement étonnant.
En plus, faut dire quand même pour les auditeurs que c'est un mec qui s'est plutôt fait connaître comme batteur de jazz quand même au départ.
Ouais, ouais, ouais. Et qui dans ce groupe, il joue comme un espèce de vieux punk presque, ouais. Qui se serait mis au jazz quoi.
Ouais.
Frappe comme un sourd et puis il envoie des espèces de break à la comme ça.
Et c'est son groupe à lui et les roues.
Voilà.
Ça ne savais pas.
Mais c'est un très beau disque.
Si je peux ajouter juste un truc sur Jim Black, enfin c'est juste pour la ramener avec. J'avais passé dans l'émission spéciale Japon un morceau de Fuji Satoko.
Oui.
Elle a un trio avec Jim Black.
Ah oui.
Ils ont sorti plusieurs disques, donc il y a toutes les coordonnées sur notre site.
Très bien.
Ouais, alors moi ce que je tiens à dire, c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est que Chris Pied a un groupe qui s'appelle Pachora et c'est.
Ah oui, c'est très beau ça.
C'est quasiment le même personnel, c'est-à-dire qu'il y a Jim Black, il y a le même bassiste qui a un nom scandinave, Skuli.
Alors, je vais te dire ça tout de suite. Oui, c'est ça, Skuli Sverrisson.
Voilà. Et par contre, il y a Brad Shepik à la guitare.
Et qui, là, est remplacé par Ingmar Jensen.
Voilà. Et c'est étonnant parce que c'est les mêmes gens et la musique n'a rien à voir, c'est une musique. C'est une musique très acoustique, influencée à fond par les musiques des Balkans.
Ouais,
Chris Pied ne joue que de la clarinette, c'est très beau aussi. Peut-être qu'on pourra en passer.
Ouais.
Et moi, ça m'impressionne vraiment que les mêmes gens puissent faire des musiques aussi différentes. Quoi. C'est vraiment.
C'est des musiciens hyper créatifs, quoi. C'est bien.
Ouais, c'est impressionnant. On enchaîne.
Parfois, on enchaîne.
On enchaîne avec ça. Thank you. voilà, donc c'est encore un des projets fantômes de Prince.
Ah oui, je connais pas celui-là.
Non. Ça vous dit quelque chose?
Pas du tout. Vas-y, allez, lâche le morceau.
Alors c'est un monsieur qui est assez intéressant, qui s'appelle Pierre Bastien.
Ah, Pierre Bastien.
C'est un type qui a construit tout un concept musical autour en fait de petits robots. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient d'entendre, c'est des pièces de mécano qu'il a montées, qui grattent des instruments, qui font des bruits.
Ah ouais.
Et il a fait beaucoup de disques. Celui-là, le morceau est extrait d'un disque qui s'appelle Mécanoïde Android. Et donc en fait, en concert, la plupart du temps, il est seul sur scène. Il joue une note de trompette par là, un bout de guitare désaccordé par ici. Et en fait, tous les gens qui l'accompagnent, c'est des petits robots qui grattent une corde de violon. C'est un manche-disque rayé avec un disque qui tourne.
Est-ce qu'on peut l'entendre, ce type-là?
On peut l'entendre dans pas mal de festivals de musique, comme on va appeler ça, avant-garde,
alternative,
etc. Et c'est pas tout jeune, ça fait longtemps qu'il creuse sa route dans ce domaine. Et sur ce disque, il y a beaucoup de choses que moi j'aime bien. Bon, c'est quand même assez dans cette ambiance un peu minimaliste. C'est un type qui déteste l'électro ou tout ce qui est musique par ordinateur. En fait, c'est vraiment que du mécanique.
La mécanique, ouais.
Voilà, en fait, et c'est ce qui confère finalement un truc, un côté très organique, parce que il y a plein de petites imperfections. Et en fait, il dit bien aimer l'espèce de groove que développe des espèces de petits automates qui se grippent de temps en temps, qui se décalent. Voilà, Pierre Bastien.
Pierre Bastien. Alors okay. Ah oui, oui, c'est intéressant.
Une démarche intéressante.
Voilà, je pense que ça doit être assez sympa à voir.
À voir, ça doit être marrant, oui.
Ouais. Ah oui, parce que quand on le voit, il fait des concerts, et donc on voit...
Vous connaissez le festival Fruits de mer, alors, de Jacques DiDonato, là. Il fait passer plein de mecs.
Non, je ne connais pas, il y a un festival dont pouvoir parler, je crois que c'est une association de Saint-Étienne qui s'appelle Toto n'aime pas la soupe.
Ah, je connais
et
ça.
Qui organise un festival une fois l'an et où il y a des gens, quelqu'un que j'aime bien, que j'ai déjà passé, qui est Hans Reichel avec son fameux daxophone.
Ah, il est passé là-bas.
Il y a Pierre Bastien, il y a des gens comme ça. C'est un festival dont on aura l'occasion de reparler parce que ça correspond assez bien aux physiques molles.
Très bien.
Pour fouler tout.
Bon, et ben il y en a un qui va se jeter dans la soupe. Là.
Ouais, c'est un nouveau concept dans cette émission.
Un prototype.
Voilà, Dédé Brémaud nous propose en fait une chronique de disques. Donc il va prendre le power de l'antenne pendant un bon bout de temps pour nous présenter un disque avec extrait à l'appui. Et...
Ça risque d'être un peu longué, je vais essayer de faire vite. Bon, pardonnez-moi, c'est un prototype.
5-4-2-1.
En tout cas, voilà, c'est parti, on écoute tout de suite quelque chose. Voilà, ce petit parfum Astor Piazzolesque, effectivement, il y a une progression harmonique un peu, je pense, la même que celle de Libertango. Ça laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un musicien, d'un pianiste argentin. Et effectivement, c'est le cas. C'est donc Guillermo Klein qui est en fait, avant d'être un pianiste, je pense d'abord un compositeur. Il a vécu à New York pendant pas mal d'années. Il a fait partie de cette jeune génération du jazz new-yorkais qui est bien représentée par le label Fresh Sound New Talent. Et maintenant, il vit à Barcelone depuis 2 ou 3 ans. Et on pouvait entendre aussi sur ce très court extrait que peut-être il a une sorte de grande admiration, fascination pour Jean-Sébastien Bach. Et en fait, sur ce disque dont je vais vous parler, qui s'appelle Los Guachos 3, il y a 3 pièces qui sont, selon ses propres aveux, inspirées de la fugue numéro 10 en mi mineur du livre 1 du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, dont on écoute tout de suite un court extrait pour se rafraîchir la mémoire.
Caramba. Thank you.
Voilà, donc un extrait de la fugue en mi mineur de Jean-Sébastien Bach. Donc sur ce disque Los Guachos 3, il y a donc trois compositions qui sont selon ses dires inspirées de cette fugue. On en écoute tout de suite un extrait d'une composition donc de Guillermo Klein qui s'appelle Fuga 10, donc la référence est assez explicite. Donc c'est librement inspiré de cette fugue de Jean-Sébastien Bach. Donc c'est une fugue et en fait la structure est assez semblable si on y regarde d'un peu plus près. Sur cet album, il y a une autre composition inspirée de cette même fugue qui emploie une technique assez spectaculaire qui est en fait qui consiste à faire jouer un instrument sur les temps et l'autre sur les contretemps. Et vous allez voir tout de suite ce que ça donne. On écoute. Ouais, bravo.
C'est un live en plus.
C'est un live. Enfin, non, je vais expliquer un peu. Donc, bravo à Juan Cruz de Urquiza et Taylor Haskins, les deux trompettistes.
Avec ça.
Donc, ouais. En fait, ce morceau là qu'on vient d'écouter, en fait, donc s'appelle La Ultima. Et là, il n'est pas extrait de l'album Los Guachos 3 dont je vous parle principalement, mais d'un disque qui vient de sortir, qui s'appelle donc Guillermo Klein y Los Guachos Live in Barcelona. Pourquoi j'ai choisi de vous parler plutôt de Los Guachos 3 plutôt que du live qui vient de sortir, c'est que bien que ce dernier soit magnifique, en fait, il reprend une grande partie du répertoire de Los Guachos 3. Et bon, moi j'ai une légère préférence pour l'album en studio qui est sorti il y a 2-3 ans, Los Guachos 3, bon, pour son côté vraiment aventureux, expérimental, qui va à fond dans le contrepoint. Mais par contre, ce morceau-là en particulier est mieux à mon avis sur la version live. Donc si vous pouvez vous procurer le Live in Barcelone, je pense que c'est plus facile et ça vaut vraiment le coup. Si vous tombez sur Los Guachos 3, alors là il faut vraiment se précipiter parce que je pense que c'est un chef-d'œuvre. Il y a une autre chose, bon, c'est un fanatique de contrepoint, on l'a vu. Il a aussi une imagination en matière de rythmique qui est vraiment étonnante. Et là, on va écouter tout de suite un court extrait d'un duo batterie-percussion, donc avec Jeff Ballard à la batterie et Richard Nant aux percussions. Donc, il y a un mélange de pulsations assez prenantes et des choses assez irrationnelles dedans qui me plaisent beaucoup. Parmi toutes les perles dont cet album est parsemé, j'ai une affection particulière pour un morceau qui s'appelle Web. L'extrait qu'on vient d'entendre est tiré de Broken Web. Le morceau qui s'appelle Web, donc, est, a la particularité d'être à 99% contrapuntique, ce qui est assez étonnant pour ce genre de formation, parce qu'en fait, donc c'est pour piano, guitare, basse et percussion, donc des instruments a priori plutôt harmoniques. Et je trouve ça magnifique, c'est une sorte de dentelle de bayeux, de contrepoint. Voilà, c'était la première minute de Web. Bon, moi je trouve ça magnifique. On peut juste regretter que bon, le bassiste a l'air de peiner un petit peu sur une partition, assez ardue, il faut le dire. Mais ça n'en reste pas moins très beau. Peut-être le chef-d'œuvre de cet album.
Baf dans la gueule.
Pour finir, c'est un morceau qui s'appelle El Espejo. Et bon, sur ce disque, bon, il est manifestement, Guillermo Klein est manifestement préoccupé de contrepoint. Et sur ce morceau, El Espejo, bon, il y a une construction, enfin, du point de vue formel, la construction, c'est vraiment magnifique. Il y a une richesse thématique vraiment extraordinaire. Il y a plein de thèmes qui apparaissent. Ça dure 7 minutes et c'est vraiment extraordinaire, la construction. On va écouter juste deux petits extraits de ce morceau. Donc l'exposé des deux thèmes, on va dire, principaux. On écoute tout de suite. Voilà, donc les deux premiers thèmes. Ensuite, je vous passe les détails. Il y a des thèmes secondaires qui arrivent, des développements assez touffus et beaucoup de trouvailles harmoniques vraiment étonnantes, des sortes de brouillages harmoniques. On va reprendre, on va écouter pour terminer la fin de ce morceau et on va reprendre un peu avant la réexposition des deux thèmes qu'on vient d'entendre. Bon, vous pourrez noter peut-être une modulation de ré majeur à mi bémol majeur qui est vraiment magnifique. C'est un thème, c'est un genre de procédé qu'on utilise souvent en variété, souvent c'est assez bourrin. Et là, c'est fait vraiment de manière, c'est assez magistral. Il superpose un accord de si bémol majeur sur une basse de la, bon, ce qui est tout bête, mais ça crée un trouble assez fascinant. Et ensuite, la réexposition sur laquelle il s'amuse à jouer des faits de bitonalité. Il y a le trombone qui reprend le thème qu'on vient d'entendre, une tierce majeure au-dessus, avec l'accompagnement qui, lui, reste dans la même tonalité. Et bon, moi, je trouve ça très poétique et vraiment très beau. là, il faut aussi mentionner quelques musiciens de cet orchestre qui s'appelle donc Los Guachos. On a entendu un petit peu le guitariste Ben Mander, il y a aussi Jeff Ballard à la batterie, Chris Cheek au saxophone. Ah. Et voilà, quelques gens de cette scène new-yorkaise. Voilà.
Bravo, bravo Dédé. Hein. Alors là, la démonstration, le disque, je veux me le procurer dès ce soir pour ne pas me coucher avant de l'avoir
écouté.
Écoute,
je l'ai amené au cas où on a une panne d'ordinateur ou quelque chose. Ou
une
et panne je te
de,
le passe
de
soir.
Micro, on les a. Hein. Ça,
en tout cas, tu n'as pas brouillé l'écoute. Je te remercie.
Bravo, bravo. Alors là, bravo.
Ouais,
bravo.
Ouais,
c'est merveilleux. Je connaissais
ouais,
absolument pas ce.
Ouais. Moi, ça fait pas longtemps que je connais non plus.
Bon.
Ouais, on se sent tout con pour continuer là avec nos petits trucs pourris.
Bah non, c'est pas du tout pourri.
Enfin, j'en sais rien là. C'est des dégaillochés de continuer, mais j'imagine que comme d'habitude, il va ramener un truc un peu moyen,
pourri,
quoi.
Oui, un truc un peu pourri. écoute. Ce compositeur, qui n'est pas que compositeur, parce qu'il a aussi beaucoup arrangé et puis trituré
il a tricoté aussi
des choses déjà composées, mais il est quand même compositeur, il a travaillé beaucoup pour la scène, il est allemand, il est jeune, il s'appelle Heiner Goebbels, il porte un joli nom, et il a écrit de très très belles pièces, et on va écouter une pièce de 1992 qui s'appelle Héraclès II, qui est une pièce pour batterie, embouchure et sans pleurs. Donc ça, c'est une de ses compositions qui est très longue, qui dure une quinzaine de minutes, enfin très longue. C'est un type qui ne vient pas absolument de la culture, de la pure culture classique et contemporaine, qui est, moi, je trouve très très intéressant. Voilà.
Ouais, moi je trouve ça intéressant. Je connais pas très bien, mais je me souviens que, enfin bon, j'avais. Tu te souviens, j'avais chroniqué un de ses disques alors que je connaissais à peu près rien de lui.
Ah bah c'est joli.
Et tu m'avais fait écouter quelque chose, quelques autres choses de lui pour me mettre au parfum. Je suis un peu sceptique. J'aime bien, mais en même temps, je sens un côté un peu facile, presque imposteur, un peu. Mais
oui,
peut-être c'est un
oui,
peu.
Oui, oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais
en
pour
même
moi,
temps,
c'est
quand même. Oui, c'est bien fait. C'est. Enfin, ça marche, quoi.
Je l'ai vu jouer
ça
sur
fonctionne.
Scène, cette pièce, c'était vraiment très bien.
C'est bon. Bizarre, cette histoire d'embouchure, parce qu'au bout des embouchures, il y a quand même des trompettes et des tubas.
Oui, oui, non, mais c'est ce que je voulais dire. Hein, je voulais pas, parce que je
ah oui,
pas
quand
combien.
Tu disais embouchure, c'était pour des... Oui, pardon. Oui, moi, oui. J'ai cru que vraiment, c'était des gens qui jouaient qu'avec les embouchures.
Non, c'est juste un petit ensemble de cuivre. Ah,
je suis un peu con.
Deux trompettes, un tuba ou deux, je ne sais plus.
Je suis une pauvre merde, de toute façon.
Bon, ouais, c'est un musicien qui me trouble un peu. Je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que.
Bah moi je connaissais pas.
Ça me plaît un peu.
Ça m'emballe pas.
Ça t'emballe pas.
Non.
Il a un peu froid.
Quoi,
il a beaucoup travaillé pour. Il a écrit une thèse sur un sujet qui est assez intéressant, qui est une thèse de sociologie de la musique. En fait, et il s'est intéressé principalement à toute la musique classique d'avant-garde et aussi la musique populaire de l'Allemagne, de la République de Weimar. Et c'est un type qui a vraiment beaucoup fouillé dans les archives de Hans Eisler notamment, parce que c'était son cheval de bataille. Et on aura l'occasion de reparler de Hans Eisler. Il a beaucoup travaillé avec un orchestre que j'aime beaucoup qui s'appelle l'Ensemble Moderne.
Ah oui.
Voilà.
Il y a un disque de Fred Frith avec l'Ensemble Moderne.
Qui est très beau ce disque. Il y a quelques trucs très beaux.
Et il a aussi fait énormément de musique sur des textes d'un auteur.
Sur un auteur est-allemand.
Est-allemand, ouais.
Rainer Müller.
Je vous ferai dire que Dédé Estival est en train de bailler.
Ouais, ça commence à faire un peu un télo comme émission. Hein. Faudra qu'on fasse une émission pic-pic caca bientôt.
Ouais, tiens, bonne idée.
Comme ça, tu pourras passer Constipation Blues que t'as oublié la dernière fois.
Exactement. On va laisser Dédé de la Sayette terminer l'émission.
Ouais, bon, on va finir dans la bonne humeur avec un enregistrement qui date de 1908. Alors, la qualité sonore n'est pas forcément ce qu'on peut faire maintenant. Mais écoutez les paroles avec attention.
On voit des gens qui ont la migraine, des coliques ou bien mal aux dents. Voulez-vous dans la vie humaine, chacun a ses petits accidents. Ainsi, tenez-moi, c'est bizarre, j'ai quelque chose à droite à la branche. Ça me prend 5 minutes sans crier gare, et pour un rien, bah que ça me reprend. Je n'ai pas la grippe ni l'anémie, la méningite, la pneumonie. Je n'ai pas le typhus ni le choléra, ni des petits trucs dans l'estomac. Je suis atteint d'une bonne maladie, moi, vous savez. J'ai la rigot. J'ai la rigolomanie. Mariage avec Ninette, dans quelques voitures nous montions. On avait pris soin de sa toilette, mais à la mairie, quel pignon. Pour descendre sa voiture, elle plonge, quelqu'un ferme la porte chez Vito. Si bien que la queue de sa belle replonge, se déchirait dans le landau. V'là ma femme dans tous ses désastres. Elle pleurait se jetant mes bras. Mais je jette son indignation. Ma chemise sortait de son pantalon. Pendant toute la cérémonie, ça m'a fichu là. La rigolomanie, ça m'a flanqué le facel. Jour d'enterrement de ma tante Hortense, parmi la foule, je suis belle d'œil. Il y avait une nombreuse assistance, tout le monde avait la larme à l'œil. Quand tout à coup quelque chose me frappe, on a cessé d'habiller les chevaux en espagnol avec une cape et des grandes plumes à leur chapeau. Oh, si on me voit la pincée, jusqu'au cimetière j'ai rigolé. Je me sors des enfants comme un veau. Quand on mit ma tante dans le caveau, parce que là-bas je voyais les chevaux avec leur chapeau. Pendant toute la cérémonie, ça m'avait fichu là. Et ce pauvre tante qui attendait là au fond du trou. Adieu vieille tante. La rigolomanie, ça va flanquer le sol.
Avec... C'est Georgius, c'est Dranem, c'est qui?
Voilà, non, c'est un artiste de musical complètement inconnu et dont on ne sait quasiment rien, qui se dénommait Constantin le Rieur. Et donc a eu sa petite heure de gloire avec cette chanson qui s'appelle La Rigolomanie.
Oui, qui n'a pas eu un fou rire à un enterrement?
Ben ouais, moi j'ai eu un fou rire à un enterrement.
Eh oui.
Ouais. Et bon voilà, j'ai trouvé ça sur un site internet qui est extrêmement bien fait, qui présente des chansons à partir des premiers enregistrements jusqu'aux années 50 sur tous les artistes de musical français. Donc il y aura évidemment les coordonnées sur notre site internet desoreilles.free.fr sans www. Voilà, que dire d'autre sur Constantin le Rieur? La seule chose qu'on sache, c'est qu'en 46, il a fini en tenant un comptoir d'huîtres et de coquillages rue du Faubourg Saint-Denis.
La suite logique.
Très bien, très bien.
C'était Des oreilles avec des trous.
Dedans.
Une émission présentée par
André Gaillochet,
André de la Sayette,
André Brémond.
Réalisé par André Estival.
C'était la 10e.
Et oui.
Date symbolique.
La prochaine sera la 11e.
Ouais, si tout se passe bien.
Bonne nuit à tous. Oh.